Au pied de la montagne Sainte-Geneviève, vit un homme, depuis toujours à l'écart des tumultes littéraires, des vanités, des modes, de l'actualité. Cet homme ressemble à la fois à Karl Marx et à Brahms. C'est Gaston Bachelard. Nous nous rendrons chez lui tout à l'heure. Né le 27 juin 1884, ce petit-fils et ce fils de cordonnier a été successivement répétiteur au collège de Cézanne, professeur de physique et de chimie au collège de Bar-sur-Aube et professeur de philosophie à la faculté des lettres de Dijon. Il fut ensuite professeur à la Sorbonne, où, de 1940 à 1954, il occupa la chaire d'histoire et de philosophie des sciences. Nommé en 1954 professeur honoraire à la Sorbonne, il fut élu en 1955 à l'Académie des sciences morales et politiques. Il est licencié S sciences mathématiques, agrégé de philosophie et docteur S lettres. Dans les trois domaines qui sont les siens, sciences, philosophie et littérature, ses recherches sont si riches, si diverses, si inventives, si suggestives, qu'il serait impossible d'en dégager toutes les leçons au cours de cette seule émission, consacrée à ce maître à la fois inconnu et célèbre, qui se trouve aujourd'hui au premier plan de l'actualité intellectuelle en recevant le Grand Prix National des Lettres. Rencontre avec Gaston Bachelard. Avec le concours de Colette Audry, Jean Lescure et François Dagonier, maître assistant à la faculté de Lyon. Cette émission spéciale de France 3 Nationale vous est présentée par Roger Pilaudin. Pour dégager les grandes lignes, les grands thèmes de l'œuvre de Gaston Bachelard, Colette Audry et Jean Lescure s'entretiennent en duplex avec François Dagonier, maître assistant à la faculté de Lyon.
L'œuvre de Gaston Bachelard présente deux aspects qui, de l'extérieur, apparaissent tout à fait différents l'un de l'autre. L'un serait ce qu'on peut appeler l'aspect diurne, d'ailleurs Gaston Bachelard a employé le mot, pour désigner l'activité scientifique et rationnel de l'homme. L'autre, pour lequel il a employé l'adjectif nocturne, l'homme nocturne, désigne l'aspect poétique et décrit une certaine conduite de l'imaginaire. Ces deux conduites différentes, ces deux êtres différents qu'il trouve dans l'homme, l'homme diurne et l'homme nocturne, font qu'il a écrit parallèlement deux séries d'ouvrages. Une série d'ouvrages d'épistémologie, de philosophie des sciences, et une série d'ouvrages qui, à partir de Dialectique de la durée, L'eau très amont, L'eau et les rêves, d'abord la psychanalyse du feu, s'est occupé essentiellement de découvrir une théorie de l'imaginaire, et plus spécialement de l'imaginaire poétique. Je pense que François Dagonier, puisque l'œuvre de Gaston Bachelard a une origine scientifique au départ, je pense que François Dagonier pourrait nous en parler d'abord.
Monsieur Bachelard est d'abord et avant tout un rationaliste. Et je crois que dans sa pensée, enfin qu'on a peut-être à tort ou enfin d'une manière trop excessive présentée comme bivalente, le rationalisme constitue quand même son axe majeur. Monsieur Bachelard non seulement est un rationaliste, mais il a renouvelé le rationalisme. En ce sens que... Avant lui, par exemple, domine dans la philosophie française du XXe siècle un grand esprit comme celui de Léon Brunswick et de toute l'école épistémologique française. Monsieur Bachelard l'a substitué à cet idéalisme brunswickien de la prise de conscience du vrai, un rationalisme davantage militant. La pensée de Brunswick est peut-être parfois une pensée souffrante, souvent triomphante, mais elle n'implique pas cet inachèvement, ce labeur qui caractérise l'épistémologie de M. Bachelard, dont le postulat épistémologique tel qu'il apparaît dans l'essai sur la connaissance approchée, est l'inachèvement fondamental de la connaissance. Il a rouvené le rationalisme en sens qu'il a aussi inclus dans cette philosophie de la construction du réel une pédagogie qui a pour but non pas de tenir l'erreur pour une faiblesse ou une dégénérescence, mais pour une force qu'il faut savoir et devoir combattre. Vous évoquiez des ouvrages de M. Bachelard. Il est bien évident que pour un philosophe, le bourgeonnement de M. Bachelard, les livres les plus suggestifs et les plus parlants de ce rationalisme, ce serait non seulement sa thèse sur la connaissance approchée, non seulement le pluralisme cohérent de la chimie moderne, non seulement les intuitions atomistiques, mais les trois derniers ouvrages qu'il a fait paraître, l'activité rationaliste de la physique contemporaine, le matérialisme rationnel et le rationalisme appliqué. Il a montré essentiellement, je crois, que la science, elle est avant la réalité, elle la dépasse, elle la construit, elle la fabrique, enfin elle la fait, en ce sens que le savant, dans sa phénoménotechnique, y construit véritablement des objets scientifiques. L'erreur, par conséquent, des philosophies du donné, voire même de certaines phénoménologies, c'est de trop se polariser sur ce qui est. Or, la philosophie de M. Bachelard consiste à montrer que ce qui est n'est qu'un modeste résultat par rapport à tout ce qui aurait pu être, à tout ce qui aurait dû être, à tout ce qu'on pourrait réaliser. Par exemple, il n'y a pas, si vous voulez, des substances, des corps. Mais la chimie apprend à ce philosophe que tout corps, non seulement est un multiple qui inclut une multitude de possibilités, mais la chimie apprend aussi, surtout, à fabriquer des corps nouveaux qui n'étaient pas prévus dans le plan de la nature. Il y a par conséquent, avec la science de M. Bachelard, une prolifération, une émergence, des promotions, des projets. Et cette construction de la science, elle est due, bien entendu, à la géométrie, à l'algèbre, à la mathématisation du réel, à la théorie, à la cohérence. Ainsi, c'est exact dans la chimie, on a remplacé la constatation des substances d'abord par une certaine géométrie de leur forme. Et on a substitué au corps la formule brute d'abord, puis développée. Et de ce géométrisme, on en est passé à l'algébrisme et à une mathématique de la probabilité qui montre, à travers justement cette chimie très pluralisée et très cohérente, une multitude, une énergie d'isomères, d'isotopes, de mésomères, enfin, toute une variété absolument créatrice et par conséquent un dépassement toujours de la réalité. Et c'est en croix, je pense, que la philosophie scientifique de M. Bachelard, tout en étant fortement, comme vous l'avez dit, bivalente, tout en ayant deux pentes et deux axes, eh bien, ces deux axes, etc., se rejoignent vers un même sommet, la promotion de l'être par la science.
Il me semble que la description de la philosophie scientifique que vous venez de faire de Gaston Bachelard, on retrouve un certain nombre des éléments qui sont dans sa philosophie de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'ils sont dans son aspect nocturne. Il y a dans la philosophie de l'imaginaire, selon Bachelard, le même inachèvement fondamental de la connaissance, c'est-à-dire que l'imaginaire est toujours en présence d'un monde à découvrir, rien n'est achevé, tout se fait, tout s'invente, et il y a dans la pensée de Bachelard une promotion du nouveau comme mode d'être.
Toutefois, s'il y a, comme nous sommes d'accord, deux axes, il reste vrai que la science constitue en quelque sorte non seulement le côté diurne, mais le côté lumineux, le côté éclairant.
Parce qu'il est diurne.
Comment ?
Parce qu'il est diurne et pas nocturne, quoi qu'il y ait pas mal de lumière la nuit. Hein.
Oui, mais la nuit, tout s'effondre, il ne reste plus rien. Les poètes sont des images qui s'y réalisent. Il y a des poètes, il n'y a pas une poésie. Alors qu'il n'y a pas de savant, il y a une science. Il y a un progrès, il y a une histoire des sciences, alors qu'il n'y a qu'une rhapsodie poétique.
En tout cas, il me semble que, qu'il s'agisse de sa philosophie des sciences ou de sa philosophie de l'imaginaire, il me semble qu'il y a tout de même une racine commune, dans les deux cas, n'est-ce pas, il s'évade de ce que nous appelions la science expérimentale telle qu'elle était conçue par quelqu'un comme Claude Bernard, puisque d'une part, la science moderne crée son objet, et de l'autre côté, il dira également, dans son dernier ouvrage, la rêverie crée son monde.
Pour Bachelard, il me semble que la poésie n'a pas pour objet de projeter un monde, mais de découvrir un monde, n'est-ce pas ? Quand elle le crée dans un acte d'engagement de l'être, du poète, mais c'est un monde qui échappe au poète. Ce n'est pas simplement une projection subjective.
Oui, Martin, vous ne pourriez, à force de rapprocher ces deux versants, vous arriveriez peut-être, à tort ou à raison, je ne sais pas, à transformer cette philosophie en un énergétisme alors qu'elle est essentiellement super et suprarationnelle. Et en un temps où le rationalisme subit quelquefois des critiques injustes, je ne voudrais pas être celui qui dit que cette philosophie n'est pas essentiellement un rationalisme scientifique.
Mais Bachelard le dit lui-même nettement, n'est-ce pas, en disant rationaliste. Il ne dit pas nous le sommes parce qu'il trouve que ce serait même quelque chose de trop figé. Nous essayons de le devenir. C'est au nom même du rationalisme qu'il a commencé ses études sur l'imaginaire. Au fond, la psychanalyse du feu à l'origine, ça n'était pas une étude de l'imagination, c'était surtout un moyen de montrer les fausses valorisations, les couches, n'est-ce pas, d'images toutes faites qui peuvent empêcher la pensée abstraite et dynamique de fonctionner. C'est de là qu'il est parti. Donc c'est bien toujours une préoccupation rationaliste qu'il y a, en tout cas au départ.
C'est ça. Et par conséquent, le côté nocturne, c'est vraiment parfois, enfin c'est un côté de la nuit, c'est le côté des monstres et des cauchemars.
Non.
Parfois.
Pas seulement là.
Il distingue le rêve et la rêverie.
Là, justement, je crois que je citerai une page de Bachelard ici, parce qu'elle montre bien comment il peut utiliser le rêve, la rêverie, plus exactement la rêverie, en effet, ainsi que vient de dire Colette Audry, pour en faire une conduite aussi, prenons un mot de lui, aussi hominisante que la conduite scientifique. Cette page, elle est dans la poétique de l'espace. Je vais vous la lire. « Quand l'insomnie, mal des philosophes, s'accroît de l'énervement dû au bruit de la ville, quand, place Maubert, tard dans la nuit, les automobiles ronflent et que le roulement des camions me fait maudire ma destinée de citadin, je trouve un apaisement à vivre les métaphores de l'océan. On sait bien que la ville est une mer bruyante. On a dit bien des fois que Paris fait entendre au centre de la nuit le murmure incessant du flot et des marées. De ces poncifs, je fais alors une image sincère, une image qui est mienne, aussi mienne que si je l'inventais moi-même, suivant ma douce manie de croire être toujours le sujet de ce que je pense. Si le roulement des voitures devient plus douloureux, je m'ingénie à y retrouver la voix du tonnerre, d'un tonnerre qui me parle, qui me gronde, et j'ai pitié de moi-même. Te voilà donc, pauvre philosophe, à nouveau dans la tempête, dans les tempêtes de la vie. Je fais de la rêverie abstraite concrète. Mon divan est une barque perdue sur les flots. Ce sifflement subit, c'est le vent dans les voiles. L'air en furie klaxonne de toutes parts, et je me parle pour me réconforter. Vois, ton esquif reste solide. Tu es en sûreté dans ton bateau de pierre, dors malgré la tempête, dors dans la tempête, dors dans ton courage, heureux d'être un homme assailli par les flots. C'est une belle page, non ? Je crois qu'elle est assez typique de cette attitude tout à fait positive que Bachelard a vis-à-vis de l'imaginaire et qui fait qu'au fond, il est le seul, je crois, contemporain à avoir restitué à la littérature ses véritables lettres de noblesse. C'est-à-dire non pas cette sorte de petit épanchement d'une subjectivité malheureuse que le romantisme a voulu nous faire prendre pour le grand art, mais au contraire, un effort extrêmement humain, sérieux, d'explorer un monde aussi humain que le monde diurne de la science et qui est le monde nocturne de la poésie.
Oui, mais voyez, est-ce que vous seriez d'accord sur cette formule qui consistera à penser que l'imagination guérit l'homme, elle crée un orthopsychisme Enfin, mais la science, elle guérit en quelque sorte sa philosophie, elle redresse son intelligence. Il y aurait deux manières de se guérir, en somme.
Et oui.
Vous êtes d'accord ?
C'est peut-être le mot guérison qui me gêne un tout petit peu, en ce sens qu'il ne part jamais de l'état de maladie, Bachelard. Au fond, il n'y croit pas. Il n'y croit pas tout à fait. C'est plutôt une espèce d'accroissement dans les deux sens.
Oui.
Que guérison, d'une part. D'un autre côté, je pense qu'il y a chez lui une espèce de rythme qu'il fait. De rythme qui, quand je dis rythme, ce n'est pas tellement dans le temps, mais enfin, il passe de l'un à l'autre.
Ah oui.
Justement, comme l'homme passe de la nuit au jour, si vous voulez.
Oui. Alors, vous êtes un arbitre, en somme, qui ne rendait pas d'arbitrage.
Je ne vois pas pourquoi je rendrais des arbitrages, puisque j'ai affaire à un homme très exceptionnel à ce point de vue-là, n'est-ce pas ? Un homme qui réhabilite la rêverie en plein milieu de notre siècle, qui dit « je veux donner bonne conscience aux rêveurs », n'est-ce pas ? Ce sont ces termes. Je voudrais
faire une... Il faut apprendre à bien rêver, dit-il.
Oui,
Et à bien penser. Et à penser tout court.
Et justement... Apprendre à bien rêver, c'est en même temps bien penser. Ça n'est pas dissociable pour lui. Dans la mesure, justement, où il est rationaliste, c'est-à-dire où il ne confond pas les domaines. Et c'est très intéressant à cet égard, l'attitude qu'il prend au début de L'eau et les rêves, par rapport à la psychanalyse du feu. Il dit, les métaphores du feu, je les ai dominées, je m'en suis débarrassé. Là, il a fait le travail rationnel jusqu'au bout. Dans L'eau et les rêves, j'étais trop attaché à l'eau. Et alors il s'est laissé glisser là dans la rêverie. Mais il le dit, il ne fait jamais... Vous comprenez ? Ce qui est important du point de vue rationaliste, ce n'est pas d'affirmer une primauté du rationalisme, ce n'est surtout pas non plus de n'affirmer qu'il n'y a que le rationalisme. C'est de ne pas se croire rationaliste quand on ne l'est pas.
Sûrement.
Et c'est de reconnaître les autres choses, mais en tant qu'autre quand on y est. Voilà en quoi je peux être arbitre, si tant est que c'est de l'arbitrage.
Oui, mais enfin, je voulais seulement sous-entendre que le monde de la science, il a tout de même, enfin, des caractéristiques et des propriétés qui le rendent éminent par rapport à tous les autres. En sens que, d'abord, il a des points d'application dans l'univers, il a une histoire, il a un développement, il a un grossissement, enfin, une amplification... Et c'est sur ces points que j'avais attiré, peut-être à tort et excessivement, l'attention.
Non pas à tort et non pas excessivement, mais je me demande si ces points d'application du monde de la science, le monde de l'imaginaire n'en a pas, le point essentiel d'ailleurs, étant tout simplement l'homme. L'homme sur lequel Bachelard ne cesse d'insister, ne cesse d'attirer l'attention, pour lequel il ne cesse de réclamer une liberté de son énergie, car il pense que, normalement et correctement enseignée, cette énergie doit conduire l'homme à quelque chose qui serait peut-être le bonheur. Est-ce qu'il y a quelque chose d'analogue dans ces livres sur la science ?
Ah, sûrement.
Sûrement ?
Sûrement, oui, aucun doute possible. Avec cette différence que le bonheur scientifique, puisque vous avez pris ce terme, il est inter-scientifique, il y a une société scientifique.
Je me demande s'il n'y a pas une société analogue de la littérature ou de la poésie, c'est-à-dire que, si vous voulez... Au contraire de Sartre, qui, dans son « Qu'est-ce que la littérature ?», sortait le poète de la littérature, l'identifiait au plasticien, au peintre. Au contraire donc de Sartre, Bachelard me paraît ramener la totalité de la littérature à la poésie. La réintégrer comme fonction d'unité aussi, car... la littérature est un langage commun. L'effort pour dégager un langage qui soit celui auquel on accède par une certaine conduite, par une certaine discipline de l'imaginaire, cet effort débouche sur une certaine communauté de langage. Pour Bachelard, il y a aussi une société de la poésie.
Bachelard reconnaît d'ailleurs lui-même qu'il y a une fonction du réel, évidemment ça concerne le côté diurne et rationaliste et scientifique, mais il veut restaurer ou il veut instaurer une fonction de l'irréel à laquelle il attache tout de même une très grande importance, il le dit textuellement dans son dernier livre.
Il y a
une fonction de l'irréel qui est nécessaire et qui nous aide, dit-il, à habiter le monde, n'est-ce
oui.
pas?
Mais il n'y a pas de problème qu'il y ait une fonction d'irréel. Je me contente de dire qu'il y a aussi une suprafonction du surréel. Et alors, cette...
Oui, c'était la formule qu'on admirait.
Oui, et alors, naturellement, je ne me borne qu'à dire, tout en reconnaissant tout ce que vous affirmez, que ce surréel, alors disons métaphysiquement, philosophiquement, ontologiquement, tout ce que vous voudrez, il a tout de même une éminence qui ne permet pas tout à fait d'identifier. Vous comprenez, au deuxième versant, il lui est comparable, il est isomorphe, il est semblable, il est peut-être analogue, mais enfin, éminence. Mais remarquez, il y a certainement d'ailleurs des eaux qui se mêlent, enfin, seulement monsieur, le poète, enfin, j'ose pas employer des expressions triviales, mais il tirait la couverture à lui, alors...
Je la retire avec une autre citation de Bachelard qui est la suivante. Donc, la curiosité d'être est la fonction dynamique qui nous lie au monde. Or, tout de même, ce savant pour lequel vous plaidez si chaleureusement, il faut bien que par quelque côté, il soit lié au monde.
Mais non, mais le monde, c'est une catégorie de philosophes. Et vous savez combien M. Bachelard a été polémiquement, enfin, hostile à ces métaphysiques du monde, à ces cosmologies de la description, oui. à ces choses, etc., etc. Vous comprenez, c'est un rationalisme qui, au contraire, donne la prédominance, la suprématie à l'idée, au concept, à l'instrument, au nom, philosophie
au
du nom.
Oui.
Ah, tout à fait juste, oui.
N-O-N,
bien sûr.
Parce que vous plaidez pour le nom N-O-M.
Ah, mais je crois que le... Non, là, je disais bien, je parlais bien de la philosophie du nom. Je me souvenais que, dans la préface de La psychanalyse du feu, Bachelard enseigne cet art difficile de se moquer de soi-même, de dire non, et... Je remarque encore une fois que cette même attitude du nom, cette même discipline du nom, est aussi nécessaire dans la conduite nocturne que dans la conduite diurne.
Oui, mais nous allons tomber tout à fait d'accord dans la mesure où vous voulez un Bachelard unitaire. Mais enfin, philosophie unitaire ne veut pas dire qu'un élément le plus incantatoire va prendre le pas sur l'autre. Et vous voyez, il faut bien maintenir une espèce de dualisme aussi, enfin foncier.
Ce serait peut-être aussi regrettable, quand il s'agit d'une personnalité si forte et si complexe, d'avoir l'air de trouver qu'elle s'unifie si facilement, n'est-ce pas ? Notre discussion même en montre la richesse et la complexité.
Oui, la querelle des disciples témoigne en faveur, évidemment, de la richesse du maître. Mais il est bon aussi de penser que dans la philosophie diurne et lumineuse de M. Bachelard, il y a un rationalisme particulièrement humain qui n'est pas sec. Vous savez, on disait toujours les rationalistes, c'est quelque chose de rigide, de triomphant, de sûr, de sec, cette philosophie des lumières que vous connaissez. Elle disait justement que la raison, c'était une lumière, alors que justement, chez M. Bachelard, elle est un combat où l'homme, justement, se bat contre les ombres. Il lutte contre les choses. Oui. Il est par conséquent... l'homme laborieux, l'homme conquérant, l'homme inachevé, etc. Et vous voyez que même dans la partie purement lumineuse, il y a de l'ombre, d'ailleurs comme dans la lumière.
Bien sûr.
Et si vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait de la lumière dans sa nuit, moi je vous dis aussi qu'il y a un peu de nuit dans sa grande lumière.
Je ne vois guère maintenant que Bachelard qui pourrait ajouter quelque chose à ce que vous venez de dire.
Gaston Bachelard, c'est à vous qu'il faut demander qui vous êtes et ce que vous avez voulu écrire, ce que vous avez voulu faire. Qui a raison ? Est-ce que les scientifiques qui veulent vous entraîner dans leur domaine ont raison ? Ou bien est-ce que les poètes ont raison qui veulent vous attirer chez eux ?
J'ai peut-être doublement tort, d'abord, d'avoir à tenter de faire des livres de philosophie scientifique avec une volonté de rationaliste dans un monde qui n'est pas toujours porté vers le rationalisme. Du côté, et alors de l'imagination, je suis plus tranquille parce que l'imagination c'est à tout le monde, je suis parti bien tard. Vous me demandez qui je suis, il faudrait que je puisse vous dire qui je suis devenu. Et cette fois, je ne le sais pas, pour la bonne raison que j'ai été de livre en livre sans jamais trouver, enfin, le repos, la certitude. Je ne sais pas ce que c'est que le temps dogmatique, et je crois, par conséquent, que je ne vous donnerai pas une bonne situation de ce que je suis. En réalité, j'étais fort mal parti dans la vie. Plusieurs de vos confrères m'ont demandé sur mes origines. Et j'ai eu une jeunesse difficile. Je devais gagner ma vie. Je devais gagner ma vie dans un métier qui ne comportait pas, si vous voulez, en soi, un grand avenir. Et puis, venant tardivement à Paris, j'ai suivi des cours de sciences, me suis attaché à la vérité scientifique, et par conséquent, là, j'étais un bon élève, un élève studieux, qui est passé naturellement le certificat de licence sans grande difficulté. Mais dès que j'étais dans ma mansarde, je me payais tout de même quelques loisirs de lecture. J'ai toujours lu, beaucoup lu. Et beaucoup lu en achetant des livres, même quand je n'étais pas très fortuné. Ces livres ont été, si vous voulez, accumulés dans une bibliothèque que j'ai à Dijon. Mais est-ce que c'est un passé de lecteur? Même pas, parce qu'il n'y avait pas de ligne dans ces lectures. Mais vous voyez, les poètes ont été, si vous voulez, le bon temps de ma vie. Ce mot, je n'osais pas porter un jugement sur les grands auteurs. Je pense n'avoir rien de ce qu'il faut pour faire un professeur de littérature, parce que j'étais trop libre dans mes lectures.
Vous avez lu toute la poésie, tout ce qui se publie.
Tout ce que les poètes m'envoient, et vous le savez vous-même, puisque vous avez eu la gentillesse de m'en envoyer. Si vous voulez, le côté agréable de ma vie d'homme solitaire, c'est que tous les jours, je reçois des livres de poètes. Et quand j'en parle quelquefois à de savants collègues, ils ne savent pas que ça existe. Ils ne savent pas que ça existe parce que ils étudient naturellement Baudelaire, Mallarmé, naturellement Baudelaire et Mallarmé, j'ai été passionné et je reste passionné de ces deux poètes qui ne se ressemblent pas. Vous voyez par conséquent que la poésie, si vous voulez, c'est le don qui m'arrive de l'extérieur avec une singulière régularité. J'aimerais à ce que on sache qu'il y a toujours des poètes en France.
Et ces poètes vous ont permis d'être le grand rêveur de mots que vous êtes, vous ont permis la rêverie.
Oui, alors là, vous faites allusion à un chapitre bien, bien dangereux que j'ai écrit dans mon dernier livre, La poétique de la rêverie. Mais je me suis confessé, j'aime les mots. Il me semble que j'aurais encore du plaisir à lire des dictionnaires, à rêver sur les mots. Et ce que j'ai dû, tout de même un peu trop fantaisiste, juger des mots par leur caractère masculin ou féminin, leur donner un genre d'une rigueur et les mettre quelquefois en communion, mais en hostilité, je me suis peut-être trop amusé en faisant cela.
Et cependant, malgré tout cela, vous vous définissez comme un rationaliste.
Ah ben oui, mais ce n'est pas la même chose. Bien entendu, quand j'étudie encore, je suis repris par le besoin de lire des livres de mathématiques ou surtout de physique mathématique.
Maintenant ?
Bien sûr. Alors, il ne s'agit pas de rêver.
Il ne s'agit pas de rêver, j'allais vous le demander.
Il ne s'agit pas, non, j'ai très bien divisé mon esprit, mes goûts. Quand je... J'étais pris par mon enseignement, qui était un enseignement vraiment aussi rigoureux que je pouvais. La chaire que j'avais à la Sorbonne était la chaire d'histoire et de philosophie des sciences. Et je dirigeais en plus l'Institut d'histoire des sciences. Alors, j'avais un programme annuel J'avais un enseignement tout à fait régulier. Alors là, pas de plaisanterie. Et évidemment, quand j'ai fait, par exemple, assez peut-être rapidement, un livre sur la valeur inductive de la relativité, eh ben, on n'étudie pas Einstein, on ne le comprend pas par des aperçus. Je crois qu'on va faire tout le nécessaire pour être un bon élève. Un bon élève qui a essayé par la suite d'intéresser les philosophes à des choses extrêmement précises, n'est-ce pas? Alors là, ne mêlez pas les gens, acceptez de votre ami qu'ils soient en deux morceaux.
Les axes de la poésie et de la science sont d'abord inverses.
Eh bien,
tout
eh
ce
bien,
que peut voyez, espérer, ben, tout oui. ce que peut espérer la philosophie, c'est de rendre la poésie et la science complémentaires, de les unir comme deux contraires bien faits.
Eh bien, ce que vous dites, c'est ce que je viens de développer sans m'en souvenir, n'est-ce pas? Maintenant, deux contraires bien faits, est-ce que j'ai réussi? Je ne pense pas. Entre le livre que j'aime encore et qu'on va rééditer, Le rationalisme appliqué, et La poétique de la rêverie, il n'y a pas de point commun. Il n'y a pas de point commun. Et alors là, j'ai l'impression que... je vais relire encore Le rationalisme appliqué, puisqu'on en fait une autre édition. Mais ça me rajeunira de 10 ans. En ce sens que je pensais ce que j'ai pensé, avec une obligation d'être précis pour suivre l'axe des pensées scientifiques. Tandis que si je fais encore des livres sur la rêverie, ce que je voudrais bien faire d'ailleurs, eh bien...
Il en sortira bientôt, d'ailleurs, à nouveau.
Qui est-ce qui vous a dit ça?
Aux presses universitaires de France.
Eh bien, les presses universitaires de France. Hein?
La flamme d'une chandelle.
Comment? Ils vous l'ont dit?
Mais oui.
Mais alors, quand? C'est... Eh bien, je crois que c'était un secret.
Mais voyez, c'est imprimé sur une feuille.
Bon.
En décembre 1961, c'est-à-dire le mois prochain, nous aurons un nouveau livre de vous, La flamme d'une chandelle. Ça et ce sera un livre encore sur l'imagination?
Oui, oui, c'est d'ailleurs un tout petit livre. C'est un livre que les presses impriment dans un petit format. Un livre qui ne doit avoir qu'une centaine de pages, comprenez-vous. C'est un livre que j'écris parce que je ne peux pas achever le livre que je voudrais achever, qui s'appellerait « La poétique du feu ». Et alors, j'en ai détaché des rêveries plus simples sur la flamme du chandelle. C'est tout simple, aussi simple que possible. Et j'ai voulu enlever, précisément, dans ce petit essai, j'ai voulu enlever ce qui reste tout de même de philosophique dans mon livre « La poétique de la rêverie ». Vous voyez? Mais je ne savais pas que... j'ai corrigé les épreuves. Bon, en corrigeant les épreuves, je ne savais pas qu'il était annoncé.
Et la poétique du feu dans votre esprit, qu'est-ce que ce serait?
Mais la poétique du feu, ça me permettrait de reprendre, si vous voulez, tout ce que j'aurais voulu faire quand j'ai écrit mes livres sur les éléments. Laissez-moi me reporter au passé. Le premier livre que j'ai écrit, au point de vue littéraire, c'est La psychanalyse du feu. Il y a peut-être 25 ans de ça. Il a été réédité plusieurs fois, mais sans modification. Mais quand j'ai écrit ce petit livre, bon, j'étais vraiment, dans le domaine que j'abordais, un débutant. Et mes lectures ont continué. Mes lectures ont continué pour faire l'eau. Je ne pensais pas faire l'air après, l'air et la terre. Et la terre. Vous voyez l'évolution de ces livres. Le feu est tout petit, l'eau est plus grande, l'air est plus gros. Et pour écrire le livre qui devait achever cette tétralogie, la terre, j'ai eu besoin de 2 volumes. Bon, mais lisons pour nourrir ces livres. Je trouvais bien souvent des images sur le feu qui auraient, mon Dieu, si bien gonflé ce petit livre que j'ai amassé des notes, je les ai mis, n'est-ce pas, sur des feuilles volantes, puisque je suis un monstre de désordre. Et alors, j'ai dit un dossier qui est d'une épaisseur, impossible. Et alors, de temps en temps, je veux le reconstituer sous la forme de la poétique du feu. Mais alors, j'ai des difficultés. Un chapitre de fait, un autre chapitre de fait, mais après, il y a un chapitre qui ne va pas. Il ne va pas, c'est trop difficile, il faudrait que je regarde, il faudrait que je sois instruit, n'est-ce pas, en particulier sur la mythologie. J'ai lu tout ce que j'ai pu lire, n'est-ce pas, mais lisons beaucoup. J'ai amassé bien des choses, mais c'est pas coordonné, n'est-ce pas. Et alors, par conséquent, ce livre-là que je voudrais écrire, je suis un enragé de volonté, malgré les forces qui me manquent. Je le reprends bien souvent, et puis de temps en temps, je dis, oh, voilà, il serait temps, à mon âge, de faire de la philosophie vraie, et alors, j'ai un autre livre, comme tout le monde.
Qu'est-ce que ce serait, la philosophie vraie?
Et ben, ça serait sur l'être. Hein, vous voyez, sur l'être. Alors, aussi, j'ai des dossiers très, très volumineux.
Pour une fois, vous laisseriez de côté un peu les mots pour parler de l'être?
Pas tout à fait. Parce que l'être a besoin de beaucoup de mots. Ce serait surtout l'être parlé. N'est-ce pas? Un livre de métaphysique, comme tous les vrais philosophes devraient en faire un. C'est moi, je ne l'ai pas encore fait. Voilà, mais vous m'emmenez dans des temps impossibles, je ne sais pas. Vous voyez bien où est ma table. Si je vous montrais ma vitrine, vous verriez ces notes. Et puis, désastre. Je ne peux pas bien me relire. Les notes ont été écrites comme ça, d'un coup de main rapide. Je n'ai aucune technique. J'ai fait deux douzaines de livres, mais j'ai aucune technique. Je ne sais pas.
Gaston Bachelar, vous qui avez écrit « Je suis un rêveur de mots écrits », je voudrais vous demander, voudriez-vous nous faire le plaisir de lire une de vos pages?
Eh bien, ce ne serait ni un plaisir pour vous, ni un plaisir pour moi. Parce que je lis fort mal. Quand je faisais un cours public et que j'avais une belle page à communiquer à mes élèves, j'étais obligé d'abandonner. Au moment où je lisais, je pensais à autre chose. Il faut par conséquent que je divise ma vie de lecteur dans la solitude muette, et je ne sais pas lire des pages, je ne sais pas lire des vers. Et alors, par conséquent, cela, ne me demandez pas de me sacrifier. Je ne sais pas lire. J'ai fait dans un de mes livres, sans doute dans L'air et les songes, un chapitre qui avait beaucoup, qui avait retenu l'attention étonnée de Valérie, j'appelais cela la déclamation muette. Et j'expliquais, je crois, dans ce chapitre, que mes yeux entendent, n'est-ce pas, je goûte un poème dans la lecture. Quand je l'entends déclamer, les grands acteurs, je suis tout à fait dépaysé. Alors, si vous voulez, le cimetière marin, eh bien, quand je le lis, je le comprends, je le sens, etc. Mais quand je l'entends, dire, puisque je suis tout à fait éberlué, ça réveille les morts, ça endort les vivants, n'est-ce pas? Mais c'est une infirmité, je n'ai pas à me vanter cela. Je ne vis que dans le contact avec le papier imprimé. Le papier imprimé qui est le plus proche de moi. Vous ne trouvez pas?
Toute votre vie est donc lecture.
Lecture, oui. Lecture. Elle est devenue lecture, car, mon Dieu, j'ai eu des heures actives, j'ai connu enfin la vie extérieure, j'aimais, il y a 25 ans, la vie que nous menions à Dijon, enfin les fêtes entre amis, la marche dans la campagne, j'aimais tout cela, mais finalement, j'ai suivi les nécessités de ma vie et je les accepte sans ennui, hein, voyez-vous. Alors je ne sors jamais.
Vous donnez l'impression du bonheur, Gaston Bachelard.
Bon, ben, c'est une impression. Le bonheur, c'est un trop gros mot. Réfléchissez. Ben, je suis en équilibre avec mon sort. J'ai connu toutes les misères de la vie. C'est vraiment le besoin de travailler, le besoin de suivre l'évolution de mon pays, l'évolution de la pensée, l'évolution de la poésie, d'être au contact autant que je pouvais avec tous les jeunes poètes qui viennent encore me voir comme vous. Eh bien, ça, c'est tellement sincère en moi que je vous donne l'impression du bonheur. Mais tout le monde peut avoir cette impression, hein, peut la donner du moins.
Rencontre avec Gaston Bachelard, Grand Prix National des Lettres. Cette émission spéciale de France 3 National vous a été présentée par Roger Pilaudin, avec le concours de Colette Audry, Jean Lescure et François Dagonier, maître assistant à la faculté de Lyon.